savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, nous sommes en direct ce mardi 20 janvier, non pas du tout, ce jeudi 22 janvier, il est très exactement midi et des poussières en Sud-Lozère et il pleut. Sans discontinuer, depuis maintenant presque 48 semaines, dans notre studio est encore émergé mais plus pour longtemps, vous l'entendez, le Tarnon est déchaîné. Il semble assez déterminé à nous emporter avec lui. Il a déjà envahi le rez-de-chaussée de la radio. Il y a de la pluie qui s'infiltre aussi par les fenêtres, par le toit. Il faut essorer régulièrement les bonnettes des micros. Il y a des roseaux qui commencent à pousser sous le bureau de Véro. Les canards et les oies, vous les entendez, ont débarqué. Léo a des branchies qui se forment sur les côtés de son visage. Il arrive encore à assurer la technique des émissions, mais ses mains se palmifient. Ça va devenir compliqué. Voilà, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'il arrête de pleuvoir. Mais bon, en attendant, pas le choix. Il faut bien assurer cette émission. Alors plongeons ensemble dans les ondes douces du 107. Il est midi et des gouttières sur Radio Barthas.
Midi et des poussières.
Et pour ne pas se faire emporter par les eaux, peut-être devrions-nous toutes et tous apprendre à grimper aux arbres, sur les toits ou sur les montagnes. Ça tombe bien car je reçois aujourd'hui la visite de deux expertes en la matière. Bonjour Margot, bonjour Émilie.
Salut Raphaël.
Salut.
Alors vous êtes toutes les deux membres du club Les Accrochés, le club d'escalade du Pont de Montvert. Et Margot, tu es aussi membre du club d'escalade de Florac. Et vous êtes venue ce midi dans le studio de Radio Barthas, un peu humide, hein, pour nous annoncer une grande journée dédiée à l'escalade que vous organisez très bientôt. Qui veut la présenter ?
Eh bien, écoute, je peux commencer, Émilie complétera. Du coup, effectivement, au Club des Accrochés, on a décidé d'organiser cette rencontre autour de l'escalade le samedi 31 janvier. En fait, on a été un petit peu inspiré par les copains de Saint-Chélier et Villefort. L'an passé, on est un bon groupe à avoir participé à deux contests d'escalade. Donc, un contest, c'est un petit concours. Et on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas chez nous, dans notre salle ? Une fois par an, on fait tomber toutes les prises et il y a des professionnels qui remontent des nouvelles voies et on s'est dit on va profiter que ces voies soient nouvelles pour proposer cette rencontre-là.
Voilà, donc c'est une rencontre contest, donc ça veut dire qu'il y a de la compétition aussi, c'est ça.
Ouais, bon après on aime bien être collaboratif quand même. L'idée c'est ça, c'est effectivement de mettre en compétition plusieurs catégories, donc il y a enfants, ados, enfants on a mis sur 10-13, ados 13-17 et les adultes, voilà, hommes, femmes, voilà. Et donc il va y avoir 35 voies à essayer de finaliser avec bien évidemment des niveaux plus ou moins difficiles. Et donc globalement comment ça se passe ? Au plus une voie est facile, au plus elle est faite, au moins elle rapporte de points. Donc voilà, donc effectivement au plus on grimpe un peu fort, et ben au plus on a de chance de gagner. Il y a des lots à la clé d'ailleurs, un super lot.
Comme quoi, par exemple ?
Eh ben, on a mobilisé les adhérents du club. Donc, il va y avoir des sacs à chaussons, des sacs à pof. La pof, c'est ce qu'on se met sur les mains pour essayer de croire qu'on grimpe plus fort. On a des poutres aussi d'escalade. On a des t-shirts. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses.
Génial.
Et du coup, en parallèle des voies qu'on va pouvoir essayer, il y a aussi une petite partie où il y aura des petits défis jeux. Pour aussi diversifier et pas faire que de la grimpe traditionnelle. Des choses qui requièrent de la force, d'autres plus de l'adresse, donc ça va être super chouette.
Et donc l'idée c'est aussi de faire une rencontre interclub avec tous les clubs qui sont présents sur le département de la Lozère. Il y en a combien d'ailleurs ?
Eh bien c'est une bonne question. Il y a donc le pont de Montvert, les Accrochés, c'est nous. Il y a le club de Florac Escalade, le club de Saint-Chély, de Villefort, de Mende. Peut-être que j'en oublie, mais je...
Ouais, je sais pas. En tout cas, ouais, je pense que tu as fait à peu près le tour
Mais Reuss, peut-être, aussi.
Qu'on a essayé de mobiliser. Et on s'est quand même dit qu'on allait chercher un peu aux alentours. Donc, on a sollicité Saint-Jean-du-Gard, Alès et Nîmes. Voilà, en se disant que potentiellement l'Ardèche aussi. Potentiellement que ça pourrait les intéresser de venir jusqu'au pont de Montvert.
Ça dure toute la journée, ça commence le matin et donc le matin ce sera plutôt le temps pour les enfants et les ados et l'après-midi, en tout cas pour ce qui est des contests, ce sera pour les adultes. Et il y a aussi le midi un petit pique-nique partagé, c'est ça? Ou comment ça se passe le déroulé un peu de la journée?
Du coup, on a prévu effectivement sur place petit bar et grignotes pour voilà, boire un coup et manger. On a fait appel à toutes nos forces vives dans le club pour nous faire des quiches, des pizzas. Il y aura des crêpes aussi, parce que c'est bon les crêpes pour se réchauffer en hiver. Voilà, puis on compte bien mettre de l'ambiance. Il y aura de l'animation tout au long de la journée par les gens du club. Enfin, voilà, de la musique, de la bonne humeur, de la bonne ambiance surtout. Parce qu'on a une petite salle et c'est vrai que voilà, le nombre de personnes qu'on peut accueillir est malheureusement limité, mais on a envie que ce soit hyper convivial, familial et chaleureux.
Et comment on fait pour s'inscrire?
Eh ben alors du coup, on peut s'inscrire via Hello Asso, qui est du coup la plateforme sur laquelle on peut acheter son inscription, mais on peut aussi s'inscrire directement sur place le jour J, sachant qu'il y a un nombre de places limité. Du coup, on vous conseille quand même de vous inscrire au préalable. Et pour avoir le lien d'inscription, Émilie, comment on fait?
On pourra le mettre sur Radio Barthes, ouais. sur la chronique.
Tout à fait, je le mettrai sur la page de l'émission. Et j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il fallait être en duo pour s'inscrire. Donc bon, moi, je ne connais pas grand-chose à l'escade, mais j'imagine que c'est du coup celui qui grimpe, celui qui assure. Mais si on n'a pas de duo avec nous, est-ce qu'on peut quand même venir ou... C'est compliqué.
Oui, c'est vrai qu'en fait, c'était pour nous en termes de gestion, d'organisation sur place. Et puis souvent, on aime bien grimper avec quelqu'un qu'on connaît. Mais si vous n'avez pas de binôme, voilà, ne vous limitez pas à ça. On est à 5 €, du coup, juste pour le tarif, on est à 5 € par personne. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être licencié d'un club pour participer. Donc effectivement, même si vous débutez et que vous avez juste envie de passer une journée à grimper, vous serez, vous inquiétez pas, on est plusieurs, on pourra vous assurer. Enfin voilà, vous allez passer quand même une super journée.
Et il y a de plus en plus, il y a un engouement croissant pour l'escalade. On le ressent un peu, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que vous le ressentez aussi en Lozère? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'inscrits dans les clubs, de plus en plus de licenciés?
Bah du coup, en ce qui concerne Florac Escalade, moi je suis au bureau là depuis 3-4 ans. On a un nombre d'adhésions constant, mais on a créé là il y a 2 ans maintenant l'école de l'escalade qui est en fait, il y a des bénévoles qui ont été formés pour pouvoir initier et encadrer des jeunes. Et on se rend compte que l'école de l'escalade est complète un mois à l'avance sans qu'on fasse de communication. Donc on se rend compte qu'il y a un vrai engouement, notamment auprès des jeunes. Et il faut dire aussi qu'en Lozère, on est quand même chanceux d'avoir des spots de grimpe incroyables. On a les gorges de la Jonte, les gorges du Tarn, et même un site un peu moins connu qui est la Forgette, juste en dessous le pont de Montvert. C'est des spots de grimpe vraiment super. Donc c'est vrai qu'on a un bon bassin de grimpeurs et grimpeuses par chez nous.
Carrément, et au club du pont de Montvert, c'est un peu similaire. On voit en tout cas un maintien, si ce n'est une augmentation du nombre d'adhérents chaque année. On a même ouvert un deuxième créneau l'année dernière parce qu'en fait, on était trop... En fait, le pont de Montvert, c'est la salle polyvalente. Elle fait tout, cette salle, elle est géniale. On diffuse des films, on y fait des concerts, on fait de l'escalade, on fait de la danse. Et du coup, c'est vrai qu'elle est assez petite et dès qu'on se retrouve à 40 en bas des voies, on est vraiment beaucoup. Le CA a décidé d'ouvrir un deuxième créneau et c'est mieux en fait. On peut grimper tranquillement. Donc 2 soirs par semaine, le mardi et le mercredi.
J'ai lu un truc dans un magazine qui s'appelle Vertige Média. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai découvert ça en préparant un peu notre discussion. C'est un magazine qui traite de l'escalade comme un fait social, culturel et politique. C'est très spécifique, mais c'est assez intéressant. Alors, je ne sais pas, je pense que vous n'allez pas être d'accord avec ce que j'ai lu. En tout cas, c'est une analyse qui est proposée sur justement l'engouement croissant pour l'escalade ces dernières années. Donc, je cite le journaliste dont je n'ai pas noté le nom de ce magazine, Vertige Média. « Dans une société hyper moderne, marquée par l'accélération, l'individualisme et la quête incessante de sensations fortes, cette pratique sportive semble répondre parfaitement à la soif contemporaine d'intensité immédiate. L'engouement pour l'escalade serait révélateur d'une époque en recherche permanente d'émotions rapides et intenses. » Alors je précise que lui, il livre cette analyse vraiment pour la pratique très urbaine de l'escalade, où il y a de plus en plus de salles qui poussent. Et voilà, lui, il voit ces espaces comme des lieux qui peuvent offrir aux jeunes citadins un accès facile à une grimpe ludique sans avoir besoin d'investir lourdement en matériel ou même de sortir de la ville. On peut désormais quitter son bureau ou sa salle de cours et venir tenter quelques blocs et savourer l'adrénaline d'une voie réussie avant d'aller boire une bière ou retrouver ses amis dans l'espace lounge attenant. Voilà, donc, et il conclut en disant « Jamais l'escalade n'a été aussi accessible, instantanée et intense. » Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh ben, je pense qu'il y a une vraie distinction entre effectivement ce que tu appelles la pratique urbaine et ce qu'on peut faire chez nous. En fait, il faut déjà distinguer la grimpe bloc avec la grimpe voie, où du coup le bloc, c'est on monte moins haut et on n'est pas attaché et on tombe sur des gros tapis. Et la voie, on est attaché avec un baudrier et des cordes. Et nous, ce qu'on pratique principalement, c'est de l'escalade en voie. Et notamment quand on est à l'extérieur, en fait, moi je trouve qu'on retrouve, il y a effectivement cette sensation d'intensité et de satisfaction quand on finit une voie. Mais en fait, il y a toute la partie aussi où quand on grimpe et quand on fait des sessions à l'extérieur, il y a plein de moments où on grimpe pas, en fait, où on est en bas, où on assure, on accompagne la personne qui grimpe, où on, rien que la marche d'accès pour aller au pied de la falaise, en fait, c'est tout un temps où on prend aussi le temps d'être dans la nature et de ralentir. Et du coup, je pense qu'effectivement, entre une pratique en salle de bloc où c'est quelque chose de très intense, très rapide et où t'es pas forcément en extérieur et la grimpe qu'on peut pratiquer en loisir, il y a quand même pas mal de différences.
Ouais, clairement. En tout cas, je plus soit le constat du journaliste. Moi, j'ai fait beaucoup de blocs avant de passer en voie, et notamment quand j'habitais en ville. Et c'est clairement ça. En fait, c'est se montrer, c'est de la musique forte, c'est en montant, descend. Il y a souvent, comme tu dis, un espace lounge ou un bar pour boire une bière après. Enfin, c'est un univers qui est assez particulier et intimidant. Moi, j'ai déjà entendu que c'était un milieu assez fermé, le monde de l'escalade, que c'était beaucoup d'entre-soi et que, en gros, pour rentrer dedans, bah, il faut être un peu bon. Donc, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup porté sur le physique. Il y a beaucoup de questions au niveau du genre, au niveau de, enfin voilà, grimper torse nu ou pas, comment on se déplace aussi pour aller sur les falaises. Donc finalement, ouais, la grimpe, ça concentre pas mal de sujets sociétaux. Moi, je l'adore en Lozère, la grimpe, parce que justement, on est exempt de tout ça, enfin en tout cas au club du Pont de Montvert, parce que j'ai eu des échos dans d'autres clubs de Lozère où c'était assez compétitif et individualiste. Mais nous, c'est vrai qu'au Pont, on a cette chance-là, on aime surtout se retrouver pour faire l'apéro, quoi. Non, on adore grimper.
Mais pas lounge.
Voilà, c'est ça. Mais on a, comme disait Margot, on a tellement de falaises ici que, en fait, dès qu'on peut, on est dehors.
Et c'est intéressant ce que tu disais sur les questions du genre, parce que j'ai aussi lu, oui, j'ai préparé cette interview. J'ai aussi lu un article dans le Courrier International qui analysait justement le bloc et qui disait que c'était une pratique sportive qui échappait pas à certaines dynamiques sexistes, avec de la condescendance, des conseils non sollicités de la part des grimpeurs masculins, voire une occupation de l'espace un peu trop forte. Et y avait une grimpeuse américaine des États-Unis qui témoignait et qui disait que oui, souvent aussi on partait du principe que si une nana grimpe et que c'est un garçon qui l'assure, on part du principe que c'est son mec et que c'est lui, ouais, qui lui a appris à grimper, enfin un peu de toutes ces choses comme ça. Ouais.
Ouais, clairement. Du coup, c'est rigolo parce qu'on a une personne, lors du club, qui a voulu lancer un groupe de grimpe en non-mixité choisie pour justement grimper entre femmes, parce que effectivement, alors c'est pas malveillant, c'est souvent maladroit de la part en tout cas des hommes avec qui on peut grimper ici, hein, moi je parle vraiment de nos groupes l'escalade, mais effectivement les conseils qu'on n'a pas demandé, en fait on se positionne eux comme nous, on a des rapports, enfin comme on a nos rapports sociétaux genrés, ben en fait ils se rejouent exactement la même chose dans l'escalade, quoi.
Forcément.
Voilà.
Et en fait, j'avais prévu une petite série de questions pour connaître un peu vos styles de grimpe, mais je crois qu'on a déjà un petit peu tout balayé. Je voulais vous demander si vous étiez plutôt intérieur ou extérieur, mais voilà, j'ai compris.
Ah bah c'était... grave extérieur.
Ouais, j'ai envie de dire c'est complémentaire aussi, parce que tu vois, les grimpes en hiver, le soir quand il fait nuit à 17h et qu'il fait froid, parfois on est aussi content de pouvoir grimper, que ce soit à Florac, la salle est toute petite, mais aussi au pont, c'est quand même chouette. Mais j'avoue que le Graal, c'est quand même la grimpe extérieure.
Ouais, et puis on n'a pas peur de faire de la route pour ça, quoi.
Ma deuxième question, c'était voix ou bloc, mais je pense qu'on a aussi un peu répondu. Vous êtes plutôt voix,
je crois. Voix, 100%.
Bah, c'est fou parce que moi, j'ai grimpé pendant des années. Pendant les 5 premières années où j'ai grimpé, j'ai plutôt fait du bloc. Et du bloc en extérieur, c'est quand même autre chose qu'en salle. Et depuis que j'ai découvert la voix, même, je crois que c'est même la grande voix qui commence. Donc la grande voix, quand on part sur plusieurs longueurs. Donc tu vas faire 4-5 fois une voix, qu'on dirait de 15-20 mètres, quoi. Donc tu peux te retrouver à faire des voies de 200 mètres par exemple, et je crois que ouais, c'est des pratiques que j'apprécie de plus en plus, voilà. Les manips de corde et puis être dehors, en fait on est dehors longtemps.
Été ou hiver, du coup Margot t'as un peu répondu.
Eh ben moi les sessions de grimpe en extérieur en hiver, je crois que c'est mes préférées, quoi. Souvent les falaises, on peut avoir des falaises qui sont super bien exposées, et les jours de plein soleil on peut grimper en t-shirt, en loser en plein hiver, ouais. Et ça c'est fou, quoi.
De plein quoi t'as dit? Soleil?
Ouais,
je connais
si
pas.
Dans
le sens, on l'a pas vu depuis tellement longtemps, je sais même pas à quoi ça ressemble.
Bon, peut-être que cet hiver, c'est pas une très bonne, très bon exemple, mais c'est vrai que quand on a de la chance, c'est vraiment des chouettes moments, quoi.
On dit souvent que c'est l'hiver que ça colle et que c'est le moment en fait où on va plutôt être dehors pour grimper. L'été c'est moite, il fait chaud. Quand t'es exposé en plein soleil, en fait tu tiens pas sur une falaise.
À cause de la transpiration sur les mains.
Exact. Mmh. Ouais. Et puis quand il fait 40 degrés et que t'es en plein sud sur une falaise calcaire, tu prends un peu cher, tu finis tout rouge, quoi. Du coup, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à grimper automne-hiver en fait. Bon, après le printemps c'est super aussi, surtout en Lozère. Mmh.
En duo ou en groupe?
Je crois que je grimpe quand même plus souvent en groupe qu'en duo. Souvent, quand on se motive à partir en falaise, on a un petit groupe, on remplit une voiture, quoi, voire parfois deux voitures. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie de groupe qui est toujours super appréciable. Donc, je grimpe principalement moi en groupe.
Ouais, je plus soi. Alors après, attention à la taille du groupe, parce que deux fois par an, on se fait des sorties club où on part, on est 25. On en fait une à l'automne et une au printemps. C'est hyper chouette, mais du coup, voilà, c'est une logistique, c'est une inertie de groupe. On est quand même 25 en bas des falaises. Quand on arrive sur un site, on fait peur à tout le monde en général. Donc on essaie d'y être tôt pour avoir le maximum de voies dispo. Mais ouais, c'est vrai que moi, je te rejoins. Un petit groupe là, 5-6, un truc comme ça, c'est pas mal.
Et ma dernière question, c'est... Via ferrata, point d'interrogation.
Je ne sais pas si les grimpeurs sont très friands de via ferrata. Ouais, c'est quand même une pratique qui... Enfin, en fait, c'est une pratique complètement différente, quoi, où tu as du coup beaucoup de points d'accroche artificiels sur la paroi, ce qui n'est pas le cas en escalade.
Il y a une petite hiérarchie, on sent, donc, quand
même. Non. Moi, c'est pas forcément trop mon truc. Après, là, tu fais la via ferrata du Rochefort à Florac, c'est magnifique, hein, mais c'est une pratique qui est complètement différente pour moi.
Ouais, je te rejoins, rien à voir. Et oui, il y a une hiérarchie.
Et pour terminer, je voulais savoir si vous seriez d'accord de partager avec les auditrices, les auditeurs de Radio Barthas, votre souvenir d'escalade le plus marquant. Peut-être le meilleur, le plus beau, le plus dangereux, là où vous avez eu le plus peur, où c'était le plus challengeant. Enfin voilà, celui qui vous a le plus marqué, s'il y a quelque chose qui vous vient, pour donner envie aussi.
Comme ça, de but en blanc, je ne sais pas si... Si je vais avoir quelque chose, mais ça peut être peut-être moi mes débuts en escalade où en fait j'ai commencé l'escalade en arrivant à Florac et j'invite toutes les personnes que ça intéresse à essayer parce qu'en fait la progression du début est incroyable. Au début on a l'impression qu'on va jamais arriver en haut et en fait en seulement quelques semaines on se rend compte qu'on est capable et que ça marche, quoi, même si on a des bras tout faibles. Et du coup juste cette sensation du début où on se sent super puissant et en fait tu te rends compte que c'est possible, quoi.
Et toi Émilie?
Je pense que ce serait la grande voix, parce que comme je disais, je faisais plutôt une pratique de bloc et puis de voix, et l'année dernière, je me suis mise à la grande voix, et franchement, quand on part pendant 4 heures à la verticale et qu'on prend 200-300 mètres de hauteur, notamment dans les gorges de la Jonte, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu flipper, mais en fait, après, quand on apprécie le moment, ça donne accès à des paysages et des points de vue qui sont assez, assez mémorables. Donc, et puis, beaucoup de fierté quand on arrive en haut. Souvent, du coup, on part à deux ou à trois. Et du coup, une fois de plus, on retrouve le collectif et la cohésion. Et je trouve ça, je trouve que c'est un sport qui mêle plein de choses. La connexion à la nature, la connexion à l'autre, la confiance, l'humilité, beaucoup d'humilité. Comme dit Margot, la progression est rapide. Mais après, il faut persévérer quand même pour se dire que si on veut monter de niveau. Mais j'adore ce sport. Je le pratique depuis 10 ans. Et je n'en changerai pas.
Eh ben merci beaucoup Margot et Émilie d'avoir partagé tout ça avec nous. On rappelle le rendez-vous donc de cette rencontre contest organisée par les Accrochés, le club d'escalade du Pont de Montvert. Ce sera le samedi 31 janvier à partir de 9h et jusqu'à 19h où l'apéro commencera à la salle polyvalente du Pont de Montvert. À bientôt.
Venez nombreux, merci.
Et comme il pleut toujours et que les eaux continuent de monter, on écoute un morceau à l'atmosphère très aquatique, très océanique. C'est Nautilus de Claudine Chirac.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et j'espère que vous n'avez pas passé tout le morceau à vous demander si Claudine Chirac, peut-être, y avait un lien. Eh bien non, rien à voir, même si oui, la fille de Jacques s'appelait Claude, ça peut prêter à confusion. Et même si oui, Claudine et Claude sont nées en 1962 toutes les deux, mais non, les points communs s'arrêtent ici.
Midi et des poussières. Sur Radio Bartas.
Un rendez-vous à vous annoncer aujourd'hui, c'est une mini-conférence pour découvrir une idée scientifique et ça se passe avec Olivier Clément qui est passé par nos studios pour nous annoncer donc cet événement. Bonjour Olivier Clément.
Bonjour Raphaël.
30 minutes de science, c'est le nom de cette mini-conférence que vous proposez à la bibliothèque de Florac. C'est quoi le principe ?
Alors le principe, c'est l'idée m'est venue en... au printemps 2025, en discutant avec Eva et Stéphane, les deux bibliothécaires, parce que je fais partie de l'association Les Amis de la Bibli, j'étais un petit peu décontenancé de voir l'ignorance des gens au niveau des sciences, en tant qu'ancien prof de physique. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'aurais proposé de faire des mini-conférences assez courtes sur des thèmes divers et variés.
Et sur le petit flyer qu'on peut, voilà, pour annoncer cet événement, vous mettez en exergue une citation de Marie Curie,
oui,
qui dit « Rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Est-ce que vous pensez que l'ignorance des gens dont vous parlez, elle est peut-être due aussi au fait que la science fait un peu peur parce qu'elle est très compliquée à comprendre ?
Alors qu'elle fasse un peu peur, je veux bien l'admettre, qu'elle soit compliquée à comprendre. C'est pas si... Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il suffit de vouloir s'y intéresser. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout aux sciences, qu'on a le droit d'avoir ses choix et ses intérêts dans la vie, bien évidemment. Mais non, je pense que tout est explicable et tout est à la portée de tout un chacun.
Et alors, quel sera le sujet donc, de cette conférence ? C'est la deuxième là, que
c'est
vous
la
proposez.
Deuxième, la première, ça a été sur quelque chose de très rébarbatif, la mécanique quantique. Et ce coup-ci, c'est je propose un voyage à travers la matière pour passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est-à-dire des particules élémentaires les plus petites connues à l'heure actuelle, jusqu'à l'univers et donc théorie du Big Bang.
Un très grand voyage, donc.
Voilà.
On ne va pas en dire plus, hein, on va laisser les personnes intéressées vous écouter donc, ce soir à partir de 18h à la bibliothèque.
Oui.
Et l'entrée est libre et gratuite.
Tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup Olivier Clément et vous peut-être viendrez présenter la prochaine
J'espère
conférence.
J'espère vous y voir.
J'y serai.
Très bien.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et quelle heure est-il sur Radio Bartas ? Eh bien, il est très exactement midi moins disque et Victor vient d'arriver dans le studio. Salut Victor.
Bonjour.
Alors, tu es venu comme chaque jeudi pour ta chronique midi moins disque version radio pour nous faire entendre un morceau de ton choix.
Ouais, et donc pour rester un peu dans les musiques... on pourrait dire d'ambiance ou d'atmosphérique. J'ai ramené un 45 tours de Enya que j'avais trouvé sur une brocante en France et qui m'a donné envie de le passer aujourd'hui. C'est un morceau qui l'a fait connaître. C'est le morceau qui l'a fait connaître vraiment partout en Europe et à l'international. Et après ça, ben, il y a eu d'autres albums, mais c'est un morceau qui fait partie de son deuxième album qui est sorti en 88, qui s'appelle Watermark, qui est une espèce d'ensemble de morceaux flottants comme ça qui annonce un peu ce qu'on connaît d'elle, c'est-à-dire après des morceaux très très épiques qu'on retrouve notamment dans Le Seigneur des Anneaux, des choses qui font penser à des grands espaces.
Et donc Enya, elle est d'origine irlandaise, c'est ça ?
Elle est irlandaise, elle est issue d'une famille de musiciens, musiciennes très grandes, on pourrait dire, enfin, dans le sens nombreuses. Et elle avait commencé avec un groupe avec sa sœur et elle chantait en gaélique essentiellement. Et c'est là, ce morceau, il est en anglais. C'est un single qui est en anglais, mais qui sur l'album, enfin, il y a d'autres morceaux qui sont aussi en gaélique. C'est vraiment, elle tenait vraiment à chanter avec cette langue qui était sa langue maternelle, quoi.
Alors on écoute ce morceau tout de suite. Voilà, c'était Enya sur Radio Bartas, le choix de Victor de Midi Moins Disque.
Donc le titre, c'était, j'ai oublié de le dire, Orinoco Flow. Mais en fait, le titre n'est pas du tout mentionné dans le morceau. Sail Away, c'est vraiment le refrain qui revient sans cesse, en tétant comme ça, qui évoque une sorte de voyage autour du monde en navire. Enfin, et c'est bon, là c'est vraiment, ce morceau est particulier de Enya, parce que c'est finalement toutes les voix qu'on entend, c'est que elle, c'est que des voix qui s'accumulent, qui se superposent. Et il n'y a pas du tout d'instrument, pourrait dire, traditionnel, c'est que du synthétique. Enfin, en fait, ce qu'on entend, l'impression de harpe, c'est un synthétiseur. Ouais, c'est un synthétiseur de cordes pincées, des choses comme ça. Et c'est vraiment assez typique de cette espèce de musique un peu épique et presque... kitsch aussi, quoi, de ce qu'on peut imaginer de Enya, de la musique irlandaise, de la musique de paysage. Ouais, c'est assez. Moi j'aime bien écouter ça de temps en temps. Je trouve que ça emmène assez loin. Et puis en ce moment, je suis un peu dans je suis beaucoup dans l'Irlande, donc j'aime bien écouter ça.
Mais c'est vrai que ça nous emmène en tout cas de quelque part de finalement très identifiée. Elle a réussi à créer une identité sonore très forte avec sa musique. Enfin, quand on l'entend, on sait tout de suite que c'est Enya.
Ouais, elle est un peu hors catégorie. Enfin, on pourrait pas vraiment dire ce que c'est. Hein. C'est une sorte de capacité à retraduire le terme de grand espace. Il est bien choisi, je trouve, mm-hmm. par rapport à ce que les gens disent de cette musique. Enfin, ouais. C'est quelque chose qui symbolise bien cette ouverture comme ça sur du vaste, quoi.
Tout à fait. Et Orinoco Flow, donc c'est le titre, c'est mystérieux, c'est quoi Orinoco?
Alors c'est à la fois le nom d'un fleuve en Amérique du Sud. Alors je saurais pas situé où, mais en tout cas c'est quelque chose, en tout cas, qui évoque quelque chose qui coule, quoi, et qui est quand même assez conséquent et qui traverse des pays. Et puis c'est aussi le nom du studio dans lequel le morceau est enregistré. Elle fait des références à son producteur, au studio et à cet aspect un peu plus, on pourrait dire, technique, quoi, de la musique. Mais voilà, c'est vrai que le titre en lui-même, ce mot Orinoco, est assez mystérieux, ouais.
Assez beau. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est un morceau qui se prête assez bien aux hallucinations auditives, quand on entend dans les paroles des choses qui ne sont pas du tout prononcées. En plus, là, c'est en anglais, mais il y a des morceaux comme ça où, je sais pas, notre oreille entend des choses qui ne sont pas dites. Et il y a un moment où, c'est pas pendant le refrain, mais je pourrais pas le chanter là, mais moi j'entendais « venez là, venez là, venez là », alors que c'est pas du tout ça qu'elle dit.
Ouais, ouais, et puis ben, finalement, peut-être elle chante en anglais, mais on n'arrive pas trop, c'est pas hyper distinct, on sait pas trop si ça fait un peu langue inventée, ça participe aussi à l'aspect un peu conte de sa musique, quoi.
Eh ben merci beaucoup, Victor, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce morceau. Et on te retrouve demain pour Midi Moins Disque à la pompe.
Alors demain, on prend une petite pause. Okay. Moi, je suis pas mal occupé avec un autre projet en ce moment, donc j'ai besoin de me concentrer un peu là-dessus, mais certainement la semaine d'après. Et puis surtout, le 3 février, il y a un événement à la pompe avec Salomé, qui organise une sorte d'after-workshop de l'amour. Où elle propose un atelier d'écriture de lettres d'amour, de haine. Et on fera à manger à ce moment-là. Et on passera des chansons uniquement...
Uniquement d'amour,
ouais,
et de haine.
Ouais, ouais.
En l'honneur de la Saint-Valentin qui s'annonce, c'est
ouais,
ça.
Ouais, voilà.
Ok, ça marche. Donc le rendez-vous est pris. T'as dit c'était le combien? Le 13?
Ça, c'est le 3 février.
Le 3 février.
Voilà.
Ok. Et bah, merci beaucoup. Et nous, on te retrouve jeudi prochain dans Midi et des Poussières.
Oui.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre écoute. Et donc, à mardi pour le prochain épisode. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Bartas. À 13h30, ce sera l'heure des annonces. À 14h, c'est le Festivalier de Langogne qui occupera les ondes pour leur nouveau créneau hebdomadaire, la sélection du Festivalier. C'est une émission concoctée par les bénévoles du Festivalier et qui est diffusée sur 48FM, sur Radio Margeride et ici sur Radio Bartas. Et aujourd'hui, il vous propose de vous replonger dans l'édition 2025 du Festivalier avec la diffusion du live de Tambour Tambour. Et puis à 16h, ce sera Sandrine qui vous accueillera dans ses voies du bien-être pour écouter celle de Véronique Chapillon, une paysanne formatrice nourricière. Bon après-midi sur Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.